Merci beaucoup RFI pour ce journal midi 10 également sur la Clé des Ondes et c'est le plat de résistance jusqu'à 13h. Aujourd'hui on s'intéresse à la mobilisation féministe qui se prépare pour ce vendredi 8 mars avec ce terme qui s'impose de grève féministe. En fin d'émission, les clés de l'écho seront données par Michel Cabanne qui reviendra lui sur la crise agricole et puis à 13h, histoire de voir, histoire au pluriel, s'intéresse aux origines du carnaval des bœufs gras de Bayonne. Voilà, restez avec nous jusqu'à 13h. Et on commence d'abord par notre journal. Bonjour Myriam.
Bonjour Baptiste.
Tu es journaliste en stage à la Clé des Ondes pour ce mois. Bienvenue à toi. Et pour commencer, réuni en congrès à Versailles ce lundi, le Parlement a voté l'inscription dans la Constitution de la liberté des femmes à recourir à l'IVG.
Oui, Baptiste, le planning familial de la Gironde a salué un vote historique, mais appelle à poursuivre le combat pour une application équitable de la loi sur l'ensemble du territoire, notamment en Gironde. Rappelons-le, aujourd'hui en France, une femme sur six est obligée de changer de département pour pouvoir avorter, faute de médecins disponibles. Hier, la grande majorité des députés et des sénateurs de Gironde ont voté en faveur du texte, à l'exception du député Rassemblement National Grégoire de Fournas, qui a voté contre, et de la sénatrice Les Républicains Florence Lassarade, qui, elle, s'est abstenue.
Le président de Bordeaux Métropole, Alain Anziani, a annoncé hier sa démission dans un entretien au journal Sud-Ouest.
Atteint de plusieurs maladies graves, il conserve néanmoins ses fonctions de maire à Mérignac, dans sa ville. L'élu socialiste continuera à faire face à la contestation autour du projet de construction d'un centre de rétention administratif pour lequel il avait donné son feu vert à la métropole. De son côté, le collectif Anticra, qui rassemble une dizaine d'associations opposé à cette décision, a déposé un recours auprès du tribunal administratif au mois de décembre. Publiée sur le site change.org la semaine dernière, une pétition intitulée « Non à l'enfermement des migrants à Mérignac et ailleurs » a déjà recueilli plus de 400 signatures. À la métropole, pour succéder à Anziani, Christine Bost, la maire PS d'Aisine, est une des candidates pressenties. En attendant le conseil métropolitain du 15 mars, c'est le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, qui assurera l'intérim d'une gouvernance partagée. Pour rappel, les élus socialistes avaient permis le retour de la cogestion au mois d'octobre en accordant 8 nouvelles délégations à des maires de droite, mettant ainsi fin à une gouvernance majoritaire de plus de 3 ans entre socialistes et écologistes.
Et puis le conseil municipal de Bordeaux se réunit en séance cet après-midi. C'est à suivre également en vidéo sur le site de la mairie à partir de 14h.
Le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, lui, a annoncé hier à la presse le lancement de la concertation pour le réaménagement des allées de Tourny. Les Bordelais et les Bordelaises sont attendus à l'hôtel de ville demain à 18h pour la toute première réunion publique. Un travail collectif qui se fera autour de 3 grands axes, apaisé, animé et végétalisé.
Merci beaucoup Myriam pour ce journal. Midi 13 sur la Clé des Ondes. Ce vendredi, c'est donc le 8 mars, une date qu'on a pu qualifier de journée de la femme, une impression qui me paraît aujourd'hui complètement ringarde et dépolitisée. On a parlé aussi de journée internationale pour les droits des femmes, encore de journée de lutte pour les droits des femmes. Et puis de plus en plus, ce qu'on en retient et ce qui est mis en avant par les militantes et militants qui se mobilisent et qui se mobiliseront ce vendredi, c'est la grève féministe. C'est comme ça que l'Assemblée Générale Féministe de Gironde la présente cette année, avec également les syndicalistes, l'intersyndicale qui appelle à cette journée de mobilisation. L'AG féministe qui dit « La grève féministe est aujourd'hui la stratégie d'une partie de mouvement féministe pour gagner réellement des droits et pour changer la société ». On va revenir sur cette actualité féministe et sur ce qui va se passer ce vendredi avec nos invités aujourd'hui. D'abord Aïna, bonjour.
Bonjour.
Tu es étudiante en philosophie à l'université Bordeaux-Montaigne.
Oui.
Laurence Laborde, bonjour.
Bonjour.
Enseignante, co-secrétaire de la FSU de Gironde. Julie Pérez, bonjour.
Bonjour.
Tu es membre de l'association Médusine, notamment, et on parlera tout à l'heure de ce que vous organisez cette semaine. Et puis on aura sans doute tout à l'heure au téléphone Chloé de l'Assemblée Générale Féministe de Gironde. Je voulais commencer avant ça par vous demander à vous toutes ce que ça représente cette date du 8 mars pour vous, Laurence. C'est quoi le 8 mars pour toi ?
Alors, pour moi, le 8 mars, c'est le jour même. C'est un moment joyeux et où on se rassemble et combatif. Voilà. Et dire le 8 mars, ça veut dire qu'on mène campagne avant. Et donc, mener campagne, c'est du coup parler de tout ce qui nous reste à faire, de tout ce qu'on a un peu gratté, donc, mais tout ce qui nous reste à faire et à combattre, et donc aller au plus près de nos collègues, amis, familles, et de discuter des choses à conquérir.
Quand tu dis joyeux et combatif, c'est comme ça que tu l'as vécu ces dernières années aussi? Qu'est-ce qui fait que c'est un moment joyeux et combatif?
Joyeux parce qu'on se rassemble, parce que la manifestation du 8 mars en général est très chantante, dansante et très revendicative, voilà, animée par la Batucada féministe. Et combative parce que c'est un moment où il y a des prises de parole, mais il y a aussi des slogans qui disent quand on se déplace ce qu'on veut, nos revendications.
Merci Laurence. Aïna, pour toi, c'est quoi le 8 mars ?
Alors, pour moi, c'est pas si important, mais tout simplement parce que c'est très représentatif du fait qu'on est quand même au niveau du sexisme, dans une société qui accepte beaucoup trop de choses, et que c'est, si on en vient à faire une journée de la femme, c'est que justement, on est vraiment, vraiment dans la merde. Voilà.
Julie, c'est quoi le 8 mars pour toi ?
Je rejoins ce que disait Laurent, c'est un moment de fédération où on est visible et où pour une fois, le féminisme, c'est pas que de l'effort, mais c'est aussi de la célébration. Mais pour moi, surtout, ça m'évoque toutes les luttes antérieures en fait, qui ont amené aujourd'hui à ce qu'on puisse se regrouper pour lutter pour nos droits. Et le fait qu'aujourd'hui, ça devienne une grève, ça permet aussi de visibiliser les femmes des classes les plus populaires, qui pendant longtemps ont été invisibilisées dans un féminisme un peu blanc bourgeois, bon ton... Et malheureusement, qui est aussi un petit peu récupéré pendant la journée de lutte des droits des femmes. Donc voilà, je trouve que c'est aussi un moment important pour faire un peu de pédagogie, même si on en fait déjà beaucoup, autour de l'historicité des luttes pour les droits des femmes.
Alors, il y a plein de sujets dans l'actualité sur ces questions de droits des femmes, de violences faites aux femmes et de féminisme. Peut-être le dernier en date, on en parlait tout à l'heure dans le journal, c'est cette inscription de l'IVG dans la Constitution. Alors, comment vous percevez ça? À la fois, c'est une avancée forte. En même temps, on voit bien, on flaire bien le coup de com' de Macron juste avant le 8 mars de placer ça. Comment est-ce que vous recevez ce truc-là, Laurence?
D'abord, c'est à mettre au crédit. Bon, c'est une bonne nouvelle quand même. On se le dit parce que c'est à mettre au crédit de toutes les femmes qui se mobilisent et les minorités de genre qui se mobilisent sur ce sujet depuis 50 ans. Donc voilà. Donc ça, c'est une avancée. Après, maintenant, il faut que ça se concrétise, notamment. Il faut des traductions concrètes. Il faudrait que réouvrent les 130 centres IVG qui ont été fermés depuis 10 ans. Il faut la révision du décret sur les sages-femmes pour qu'elles puissent exercer. Il faut la création d'un service, d'un pôle public du médicament pour produire la pilule abortive. Et puis, il faut qu'elle s'étende aux personnes trans qui sont exclues, invisibilisées dans cette loi. Et d'ailleurs, nous, ce qu'on avait demandé, c'était pas que ça soit la liberté, mais un droit d'avorter. Et le fait que ça repose sur une loi, on sera vraiment très attentif et attentive à ce que ça soit pas une loi au rabais. Voilà. Mais c'est quand même une très bonne nouvelle, quoi. On a fait la fête hier.
Merci Laurence. Alors, je donne la parole tout de suite à Chloé qui est avec nous par téléphone. Bonjour Chloé.
Bonjour. Vous m'entendez bien ?
Oui, très bien. Je rappelle que tu es membre de l'Assemblée Générale Féministe de Gironde. On était juste en train de revenir sur cette actualité d'hier d'inscription dans la Constitution du droit à l'IVG. Je disais, voilà, à la fois très bonne nouvelle et en même temps, on voit bien le coup de com' de Macron. Comment est-ce que toi, peut-être, ou à l'AG, vous avez reçu, vous, cette nouvelle, Chloé ?
On n'a pas encore eu le temps de vraiment digérer la nouvelle, étant donné que on est vraiment dans la préparation du 8 mars, mais il me semble qu'on s'exprimera le 8 mars justement pour dire que le droit c'est pas pareil que la liberté et que aujourd'hui il n'y a rien qui va faire réouvrir les centres IVG qui ont fermé. Si c'est une liberté, on dit juste aux femmes que c'est possible pour elles d'avorter, mais ça ne veut pas dire qu'on met justement tous les moyens nécessaires pour permettre cette liberté de s'exercer réellement. Donc c'est quand même une victoire en demi-teinte, parce que tant qu'il n'y a pas les moyens qui assurent la possibilité d'exercer cette liberté, ça n'a pas changé grand-chose. Par ailleurs, je voulais aussi souligner que des droits et des libertés qui existent dans la Constitution ne sont pas respectés dès en ce moment, c'est-à-dire le droit au logement, le droit au travail, et que ce n'est pas parce que c'est mis dans la Constitution que pour autant nos gouvernants s'y attachent véritablement, quoi.
Merci de prendre ce temps avec nous. Je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, donc on va aller tout de suite à l'essentiel avec toi, c'est-à-dire à la préparation de cette journée du 8 mars par l'Assemblée Générale Féministe. On voit année après année ce leitmotiv de la grève féministe qui prend de plus en plus de place et d'ampleur dans cette journée-là. Comment ça s'est fait la grève, on va y revenir tout à l'heure avec Laurence, mais qui vient des syndicats et qui petit à petit, chez les féministes aussi, devient quelque chose de central pour ce 8 mars, Chloé ?
Oui, alors c'est vrai que déjà j'avais envie de souligner à quel point les syndicats sont engagés particulièrement cette année dans cette mobilisation. Je sais que dans beaucoup de syndicats, la question est portée, donc déjà c'est super. Nous, ça fait déjà plusieurs années qu'on l'organise localement aussi avec l'intersyndicale, donc on continue sur notre lancée. Et nous, donc cette année, plus au niveau de l'AG féministe, on a vraiment gagné. Enfin, on organise quasiment toute notre année militante sur la construction de cette journée-là, et on voit que cette année, plus particulièrement, beaucoup de filles nous ont rejoints. De filles et de garçons, pardon, nous ont rejoints pour participer à organiser cette journée-là avec nous, qui a de plus en plus de résonance. On a, par exemple, distribué collé des milliers d'affiches, de tracts, et beaucoup de filles se sont inscrites sur l'appel à bénévoles qu'on a lancé. Plus d'une centaine de personnes ont voulu participer à construire cette journée-là avec nous, ce qui est totalement inédit. Donc voilà, et puis partout, un peu sur les lieux de travail, chacun et chacune s'attelle à essayer de faire vivre cette journée de grève. Par ailleurs, on a aussi, on construit celle-là, mais on veut aussi construire les prochaines, puisque on propose une assemblée générale des grévistes juste après la manifestation, devant Darwin, au chapiteau de cirque qui s'est installé pour quelques semaines, pour discuter justement de pourquoi la grève féministe est importante, les difficultés quand même qu'il y a encore à la construire et à la faire résonner comme ça existe dans d'autres pays, et quelles perspectives on pourrait avoir pour les années prochaines pour que ce soit aussi important que ce qui se passe en Espagne, en Amérique du Sud, etc. Donc on invite vraiment tout le monde, gréviste et aussi non gréviste, à venir discuter avec nous de l'importance de la grève et des moyens pour la construire dans les prochaines années.
Et justement, pourquoi la grève féministe c'est important ? Et peut-être tu peux nous dire un mot de comment ça se passe dans d'autres pays. Tu as parlé de l'Espagne, l'Argentine, la Suisse ou la Belgique, je ne sais plus. Et quelle résonance et quelles conséquences ça a pu avoir dans ces pays-là, Chloé ?
Oui, même l'Islande ou la Pologne, dans quelques pays, ça fait vraiment écho. Et je pense qu'il y a deux aspects principaux. C'est que la grève féministe, ça a permis de faire exister le mouvement féministe au-delà de juste changer soi-même, changer son entourage. La grève féministe, c'est le moyen par lequel, dans plein de pays, des droits pour les femmes, concrètement, ont pu être récupérées. En Espagne, qui est quand même là l'exemple majeur, où il y a des grèves absolument massives depuis 2016, il apparaît que le taux de féminicide est aujourd'hui la moitié de ce qu'il représente en France, parce que les moyens ont véritablement été donnés, parce qu'il y a eu des changements dans la loi. Donc la mobilisation, elle paye pour de vrai, concrètement, elle change les choses. La grève féministe, c'est vraiment l'outil principal. Après, la grève, c'est aussi une manière aussi de se penser en tant que femme et une minorité de genre dans ce système-là, c'est-à-dire fondamentalement, c'est nous qui faisons tourner la société, et pourtant, on n'a pas voix au chapitre sur la manière dont il faudrait organiser cette société. Et la grève, c'est le moyen aussi de mettre en avant que si c'est nous qui faisons tourner la société, c'est aussi à nous de décider, et donc de décider où va l'argent, comment on produit, qu'est-ce qu'on produit, voilà, de penser aussi à un monde différent, de sentir notre force collective, puisque justement, on fait tourner ce monde, mais qu'on n'a pas trop la possibilité de le gouverner comme nous, on l'entendrait, quoi.
Tu disais beaucoup d'affiches collées cette année, toute une organisation autour de la préparation de cet événement. Il y a une force collective, là aussi, qui se déploie, qui se met en place au sein de l'AG ces dernières années, Chloé ?
Oui, complètement. Depuis plusieurs années, chaque année, on est de plus en plus nombreuses à construire cette date. Certes, il y a des allers-retours, hein, voilà, de militantes, mais là, par exemple, on va avoir le plus gros service d'ordre dans la manifestation qu'on a jamais connu, pour que cette manifestation, elle soit vraiment bien, bien réussie. Et on voit que chaque poste, chaque petit élément est aujourd'hui animé par beaucoup plus de personnes que ça a été le cas auparavant. Disons que vraiment, on a gagné en importance pendant la réforme des retraites l'année dernière, justement pendant un mouvement de grève massif contre le gouvernement où on faisait pas forcément juste apparaître les revendications féministes, mais où ça nous a permis de discuter aussi de la place des femmes dans cette société. Et de fait, beaucoup de filles qui nous ont rejoints au moment de la réforme des retraites continuent dans la construction de la grève féministe parce qu'en fait, c'est une continuité dans la bataille pour améliorer la société et gagner de nouveaux droits.
Très bien, merci beaucoup Chloé d'avoir pris ce petit temps avec nous. Je rappelle que tu es membre de l'Assemblée Générale
Merci
Féministe.
À vous.
Et donc on rappellera les événements, mais la manif c'est à 12h ce vendredi. Et il y aura une AG à 16h, quai de Kéris, sous le chapiteau de cirque. Merci à toi, merci beaucoup Chloé.
Mais merci beaucoup, au revoir.
Je vais tout de suite vous faire réagir Laurence peut-être sur cette question de la grève féministe. Alors voilà, organisée par l'AG Féministe et par les syndicats, puisqu'il y a une intersyndicale et l'ensemble des syndicats au niveau national qui ont déposé un préavis de grève pour cette journée du 8 mars. En quoi, pour toi, c'est important, comme le disait Chloé, cette notion de grève et de grève féministe, Laurence ?
La FSU, elle fait partie aussi de l'AG Féministe en tant que telle, puisque l'AG Féministe, elle regroupe à la fois des organisations politiques, syndicales, des associations et des individus. Et j'ajoute juste une petite précision à ce qu'a dit Chloé, c'est que ce qu'a fait de remarquable l'Assemblée Générale Féministe cette année, c'est qu'elle a eu le souci de porter la grève sur l'ensemble du territoire. Et donc des diffusions de tracts, ça c'est une première, ont été faites partout sur le territoire et qu'il y a des initiatives qui vont avoir lieu à Libourne, à La Réole, etc. Donc une volonté vraiment d'un maillage, un peu à l'image de ce qui a eu lieu en Espagne pour construire une énorme la manifestation d'un million qui avait abouti à 1 million de personnes dans la rue. Je crois que...
Un
8 mars, oui, ça avait été extrêmement fort. Voilà. L'intersyndicale, au niveau départemental, a fait un vrai saut qualitatif depuis la mobilisation des retraites, puisque jusqu'à présent, il y avait Solidaires, CGT et la FSU qui appelaient à la grève le 8 mars. Et depuis la mobilisation des retraites, le fait d'avoir mis notamment cette réforme, de l'avoir dénoncée comme injuste, brutale et sexiste pendant toute la campagne contre la mobilisation contre cette loi, a fait que des organisations syndicales aujourd'hui pensent qu'il est nécessaire de se pencher sur la question, enfin. Donc c'est plutôt chouette.
Ça a mis un peu de temps, mais ça a fini.
Mais oui, mais c'est bien,
ça
avance.
Ça a fini par infuser
voilà.
Chez les syndicats aussi.
Donc cette année, la CGC, la CFDT, donc l'UNSA était déjà avec nous les années précédentes, se joignent à l'intersyndicale, ainsi que la FSU, l'UNEF, la FIDEL. Donc l'arc intersyndical s'élargit. La grève, c'est important parce que, comme dit Chloé, on arrête tout et le monde s'arrête. Et donc, c'est une occasion de montrer le fait qu'on a un rôle essentiel et qu'on a une parole essentielle à porter. Mais c'est aussi pour dénoncer un rapport de domination. Et donc ça, on a vraiment besoin de... qui s'exerce dans tous les niveaux, à la fois dans le travail... qui s'exerce au niveau des inégalités salariales et qui porte du coup, ça renforce le pouvoir des hommes sur les femmes, un pouvoir économique, un pouvoir de hiérarchie. Et ce pouvoir-là, il s'exerce aussi, du coup, il se décline aussi dans la sphère privée, etc. Donc c'est l'occasion de le dénoncer à ce moment-là et d'arrêter tout pour le dire, c'est important.
Avec ce slogan, on arrête tout, si on arrête tout, on fait grève dans le domaine professionnel et quid du domaine domestique ou privé, est-ce que la grève, elle se poursuit aussi à cet endroit-là ?
Alors, il y a un slogan quand on manifeste qui dit « qui va faire la vaisselle, moi je fais la révolution », donc souvent on crie ça pendant toute la manifestation et le soir quand on rentre, on fait quand même la vaisselle. Donc c'est vrai que, du coup, en Espagne, je sais que ce qu'elles avaient fait, c'est qu'elles avaient, à ce moment, enfin, lors de la très grande mobilisation du 8 mars, les hommes s'étaient organisés pour prendre en charge les enfants. Le ménage, il y avait eu des gants MAPA suspendus dans toutes les fenêtres, etc. Et ça avait été davantage porté. Je crois que c'est un travail qu'on a à faire, ça, encore, sur le fait de comment on fait grève à la maison, comment, ce jour-là, on manifeste clairement qu'on n'est pas disponible.
Julie, tu veux dire un mot là-dessus ?
Oui, mais c'est peut-être le moment pour les fameux alliés, parfois auto-revendiqués, de ne pas seulement être dans un féminisme performatif où on fait mine de l'être, ou en tout cas on le dit beaucoup, peut-être aussi parfois pour essayer d'obtenir quelques récompenses, mais de réellement faire acte. Et quand on est un homme cis, blanc qui plus est peut-être, bourgeois, peut-être que sa place le 8 mars n'est pas dans les cortèges, mais c'est justement... à la maison pour garder les enfants quand il y a enfants, ou alors tout simplement de mettre un peu son pouvoir économique au profit des caisses de grève, ou par exemple l'AG féministe a une cagnotte pour les aider à rembourser tous les frais investis pour l'impression des affiches, etc. Donc voilà, peut-être se départir un peu de ces fameux privilèges et de les mettre au profit de celles qui luttent ce jour-là.
Aïna ?
Pardon. Justement, c'est ce que je voulais dire avec le 8 mars, c'est que je trouve que c'est très très hypocrite. Il y a quand même les comportements où il y a un peu plus de respect envers les femmes et de considération de leur combat, il y a quand même un truc qui montre à quel point il y a une différence de quand on les respecte et quand on les respecte pas, et à quel point cette journée est... Eh bien, en fait, elle devrait être tous les jours. Et voilà.
Et donc, tu dis hypocrisie de le placer là juste un jour et...
Oui.
De rien en faire le reste du temps.
C'est hypocrite, quoi. C'est comme si on considérait, alors que le reste de l'année, on considère pas du tout, très peu, et peut-être de plus en plus quand même, c'est vrai. Mais très peu le combat des femmes. Mmh.
Comment toi, tu vois cette question de la grève quand on est étudiant, étudiante, c'est pas la même chose. En tout cas, on n'a pas un contrat de travail, on peut pas faire grève, on peut pas aller en cours et on risque des sanctions. Comment cette problématique-là, elle se met en place là, autour de cette date ?
Eh bien justement, moi je ne ferai pas grève parce qu'en fait les cours n'ont pas été banalisés et il y en a, il y a des cours super importants dont celui auquel je dois aller et en fait c'est pour ça qu'on a demandé que les cours soient banalisés, c'est pour que les élèves puissent manifester et se mobiliser comme pour les blocages, comme pour toutes les mobilisations et ça a été refusé par la fac de Montaigne, par la présidence et voilà. Qui a d'ailleurs fait une semaine contre les violences sexistes et sexuelles juste avant.
Alors que, il me semble que pour, lors du combat contre la réforme des retraites, il y avait des cours qui avaient été banalisés à l'université et l'université avait incité quelque part, en tout cas, n'avait pas mis de bâton dans les roues aux étudiants qui voulaient se mobiliser. Et là, pour cette journée, ils refusent, la demande leur a été faite, mais ils refusent de le faire, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ils refusent de le faire et il y a d'autres histoires... qui nous prouve à quel point ils n'agissent pas ce qu'ils disent.
Alors peut-être on peut redire un mot sur notamment cette affaire de viol et de violence sexiste et sexuelle. Il y a des accusations contre un prof de philosophie qui est passé en commission disciplinaire à Toulouse il y a quelques semaines, qui a écopé d'un an de suspension, d'interdiction d'enseigner. Où ça en est cette histoire et comment est-ce que vous, étudiante, vous prenez un peu la situation ?
Alors, en fait, il a été accusé que pour avoir accueilli des femmes nues chez lui, il n'a pas été condamné pour le viol parce qu'on n'a pas de preuves. Le souci, c'est que ça met en danger les étudiantes, que c'est inacceptable moralement. Et du coup, on a un peu parlé avec notre président qui semble plutôt de son côté. Et là, il y a une AG mercredi midi, à 12h30 à Montaigne, à ce propos d'ailleurs. Et on essaye de discuter ensemble de ce qu'on peut faire, de comment bloquer ses cours, de comment se mettre en commun pour montrer à quel point il n'y a pas d'étudiants qui sont d'accord avec ça. Mmh. Il n'y a pas d'étudiants qui sont pas scandalisés. Mmh. Tous les étudiants sont scandalisés.
Et effectivement, on voit qu'il y a c'est un peu, ça devient un lieu commun de le dire, mais une sorte de libération de la parole, en tout cas de plus en plus de témoignages qui sortent d'agressions, que ce soit à la fac ou ailleurs d'ailleurs, mais ça n'aboutit pas forcément à des faits et à des mises en sécurité des étudiants et étudiantes, à des sanctions vis-à-vis des personnes responsables.
Oui, mais il y a quand même de plus en plus de paroles, et surtout autour de ce monsieur-là et de cette histoire-là, où il y a de plus en plus de femmes qui parlent, il y a de plus en plus de témoignages, et il y a eu une seconde plainte. Et en fait, ce qu'on veut, c'est montrer que ce qu'on n'accepte pas, mais qu'on accepte pour personne. Et qu'en fait, c'est si lui il n'est pas condamné, les autres le feront sans souci et continueront sans problème. Voilà.
La grève, c'est aussi se libérer du temps pour discuter, se rencontrer, échanger et s'organiser. Vendredi matin, donc, la journée commencera avec un café-débat, c'est ça, organisé par l'intersyndicale pour échanger. Laurence, tu peux nous en dire un peu plus ?
C'est à 10h et c'est au café Saint-Aubin. Et donc, on appelle tout... les grévistes à venir déjà discuter. Alors, il y a deux temps de discussion. Il y a la des grévistes à 16h, et puis il y a un café avant, à 10h, voilà, où l'idée, c'est de témoigner de nos quotidiens de femmes et de minorités de genre dans nos travails et dans nos quotidiens, d'ailleurs, et de voir les luttes qu'on a à mener, qu'on mène sur nos lieux de travail. Aussi de parler de nos conditions de travail. C'est un temps d'échange et de partage, et de d'évaluer aussi nos besoins en termes de formation, d'envie, etc. Voilà.
Et peut-être c'est important d'insister là-dessus, que la grève, c'est non seulement ça montre que sans vous, sans les femmes, la société s'arrête, mais aussi de récupérer de ce temps-là pour s'organiser, pour militer, ce qui prend du temps et qui n'est pas facile au quotidien. Et donc c'est aussi un temps pour ça.
Oui, c'est un temps nécessaire d'ailleurs, tout dans l'organisation du travail, mais aussi dans la répartition genrée des rôles à la maison, enlève du temps aux femmes et aux minorités pour vivre et pour penser leur vie. Voilà, et donc c'est ce temps, il faut qu'on le reprenne. Alors dans notre travail, en se battant, en désobéissant, en faisant grève, enfin il faut en voler du temps. Souvent les femmes, elles ont plein de stratégies, mais... elle passe souvent après, quoi. Donc il faut partir à la reconquête du temps, c'est nécessaire pour se penser et pour penser le monde.
Petit rappel, comment on fait pour faire grève ? Donc il y a un préavis national intersyndical qui a été déposé pour ce vendredi.
Alors oui, il faut y aller gaiement là, parce que il y a un large préavis déposé par l'ensemble des organisations syndicales. Donc dans la fonction publique, alors dans le premier degré, dans les enseignants, chez les enseignants, il y a un préavis à déposer. Mais sinon, il faut simplement, vous êtes couvert par un préavis de grève, et donc vous pouvez signaler à votre employeur que vous serez pas au travail ce jour-là, mais dans la rue, en train de manifester.
Et est-ce qu'on peut ne pas le dire ? Enfin, jusqu'où on est obligé de dire tout ça, et est-ce qu'il y a une partie des personnes qui peuvent être un peu frileuses de se découvrir et des répercussions que ça pourrait avoir sur leur rapport avec leur hiérarchie ?
Alors c'est possible, mais n'hésitez pas à vous tourner vers les organisations syndicales pour vous accompagner, ou pour répondre à vos questionnements, ou vous accompagner dans vos démarches. Enfin, en tous les cas, c'est un droit, et vous devez, ça ne s'use pas les droits, ça s'utilise.
Très bien. Le 8 mars, il y a cette grève, mais il y a aussi plein d'événements culturels, militants qui sont organisés autour de cette journée du 8 mars. On fera une petite liste tout à l'heure. On va faire un petit zoom sur l'un d'eux. Julie, dont tu vas nous parler. Donc toi, tu es d'abord guide conférencière à Bordeaux des Tours, et puis tu fais partie de Médusine, une asso qui lutte contre la sous-représentation des femmes et des minorités de genre dans les industries culturelles. Ça va comme
ça
présentation ?
Résume bien.
Peut-être tu peux nous dire un mot, il y a beaucoup de soirées DJ avec des meufs DJ qui sont organisées.
Ouais. Alors l'un des objets premiers de l'association, c'était en effet de donner plus de visibilité aux artistes féminines et aux minorités de genre, avant tout sur les scènes de musique plutôt électronique et qu'on appelle aussi parfois musique urbaine. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est surtout de porter différentes initiatives de projets artistiques, que ce soit dans les arts plastiques, la danse, la musique, live DJ. Et récemment, on a organisé un ball à la salle des fêtes du Grand Parc en partenariat avec la Gaîté Lyrique et la Maison Revlon.
Alors un ball, qu'est-ce que c'est ?
Un ball, c'est un moment festif à l'origine issu, plutôt mis en place par les communautés afro et latino aux États-Unis dans les années 70 puis 80 jusqu'aux années 90, où les minorités de genre peuvent célébrer leurs différences dans des contextes plus sécurisés, on va dire. Voilà. Et depuis les années 90, c'est un mouvement qui s'est quand même importé en Europe et notamment en France. Et Paris est devenue une capitale mondiale de la culture ballroom. Et il y a eu déjà un bowl à Bordeaux et donc on en a organisé un second. Et a priori, aujourd'hui, Bordeaux est en train de s'inscrire sur cette scène-là. Scène qui est notamment connue peut-être plus par le grand public par la pratique de la danse qu'on appelle le voguing. Voilà. Donc voilà, ça c'était un gros événement qui a pas mal mobilisé les personnes de l'association.
Et à côté, donc, un nouveau gros événement qui va avoir lieu demain.
Ouais, voilà, exactement. À côté donc de cet événement-là, pour la semaine des droits des femmes, on a souhaité aussi un temps autour de la question des violences sexistes et sexuelles, en mettant l'accent plus particulièrement sur le public jeune, entre 15 et 25 ans, 30 ans, puisque c'est la cible des personnes qui vont et viennent aux événements de Médusine. Et on a été sollicité donc par Solune, qui est un duo de musiciens et musiciennes qui ont composé la bande originale d'un documentaire qui s'appelle Hors Radar, qui a été réalisé par Aliénor Carrière, qui est journaliste et documentariste et qui est spécialisée dans les questions de féminisme et de genre, ce qu'on appelle aujourd'hui un gender editor. Voilà. Et du coup, en fait, elle a suivi pendant 6 mois des éducatrices d'un lieu un peu particulier qui se situe à Bagnolet, qui s'appelle le LAO, le lieu d'accueil et d'orientation, qui est un dispositif mis en place par l'association Une Femme, Un Toit, et qui s'est spécialisé dans la prise en charge des jeunes femmes victimes de violences conjugales, et qui justement, en fait, ne s'identifie pas comme étant victimes de violences conjugales, parce qu'elles ne sont en général pas la cible, ou en tout cas, elles ne correspondent pas à l'image un peu stéréotypée qu'on a des victimes de violences, à savoir plutôt des femmes, souvent avec enfants, autour de 40-50 ans, qui partagent le même domicile que leur conjoint. Là, ce sont souvent des jeunes femmes qui vivent seules et qui ont parfois du mal à caractériser les relations d'emprise dans lesquelles elles peuvent être enfermées. Et donc, le travail de ces éducatrices, c'est de les accompagner déjà à mettre des mots, à caractériser les situations qu'elles vivent et à les outiller pour quitter les conjoints violents. C'est un dispositif qui devait être étendu dans les régions en France, qui est victime de son succès, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les moyens financiers sont limités, elles n'ont plus les capacités d'accueillir autant de femmes que ce qu'elles voudraient, et finalement les subventions vont être coupées pour différentes raisons. Elles ont plusieurs financeurs, donc voilà, il y a un grand panel de financeurs et tous se désengagent petit à petit, et ce dispositif qui devait être étendu finalement ne va pas être reproduit en région. Donc encore une fois, on voit la différence entre l'égalité en droit et puis l'égalité dans les faits et dans les moyens financiers et humains qui sont mis en place pour régler donc notamment ces problèmes de violence conjugale.
Alors qu'il y a un besoin énorme à ce niveau-là pour cette tranche d'âge en particulier.
Alors qu'il y a un besoin pour cette tranche d'âge et que vous l'avez mentionné tout à l'heure, en Espagne, là où les moyens financiers et la formation aussi a été déployée, les féminicides ont baissé, les plaintes pour violences conjugales sont mieux prises en compte. Et quand on est une femme victime de violences ou d'emprise dans son foyer, il faut à peu près 7 allers-retours auprès d'associations et ensuite auprès de la police avant de définitivement pouvoir s'extraire de la situation violente et dangereuse. Et ces allers-retours-là, ils exposent davantage les femmes aux répercussions et aux représailles de leur conjoint ou ex-conjoint violent. Donc voilà, il y a une vraie urgence de mise à l'abri de ces femmes qui, à un moment, décident de se protéger, d'agir pour elle-même et de quitter les conjoints violents.
Et les dispositifs existants à ce niveau-là ne sont pas suffisants pour l'instant. On pense. Médusine a fait la une du magazine municipal de Bordeaux qui mettait en avant sa politique pour l'égalité et le fait qu'ils allaient subventionner avec des conventions pluriannuelles, plein d'associations qui bossent dans ces domaines-là. À l'heure actuelle, je ne sais pas si tu peux me répondre sur cette question et sur ce qui existe à l'heure actuelle à Bordeaux, mais en tout cas, il y a un manque d'acteurs, d'actrices, de structures pour bosser sur ces questions-là auprès notamment des publics jeunes et ados.
Alors, les structures, je pense qu'elles existent, mais par contre, elles sont en épuisement et en burn-out militant pour beaucoup d'entre elles, puisque, encore une fois, consacrer du temps et de l'énergie à un travail militant, c'est ne pas prendre ce temps pour un travail rémunérateur et alimentaire à côté. Or, tout le monde doit manger, tout le monde doit payer son loyer. Et donc, si on veut à un moment que les associations survivent, étendent leur action, il faut les doter financièrement. Et donc, je ne pense pas que ce soit un problème d'association. Je pense que c'est plutôt un problème de financement de ces associations et d'engagement de budget suffisamment conséquent pour leur permettre de survivre et pour éviter aux associatifs et aux militants de s'épuiser. Puisque là, j'ai l'impression quand même que beaucoup de choses reposent sur les épaules et la force morale de quelques personnes. Mais on voit que systématiquement, il n'y a pas de réelle volonté d'allouer les moyens financiers nécessaires à ça.
Alors donc il y aura demain soir projection de ce documentaire Hors Radar, c'est à 19h,
ouais.
Et puis ce sera suivi d'une table ronde, c'est ça, où ouais. Tu vas faire dialoguer la réalisatrice.
Exactement.
Et puis des personnes qui bossent, ouais, dans ce domaine-là.
Alors la soirée ouvre ses portes à 19h, le temps de vous accueillir. À 19h30, on commence donc la projection de Hors Radar, et ensuite Aliénor Carrière sera présente aux côtés de Maïlys Chesnay, qui est intervenante au planning familial et qui a elle-même 25 ans, qui est une jeune personne. On aura aussi Lauriane Beausoleil, qui est éducatrice spécialisée au CACIS. Donc les missions du CACIS sont un peu proches de celles du planning, hein. C'est des centres en tout cas qui travaillent sur les questions de droits reproductifs, d'éducation à la sexualité, au consentement. Et ensuite, il y aura Lise Catherine Pomelet-Guillérès, qui est membre du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, membre du Conseil régional des jeunes, pardon, de Nouvelle-Aquitaine. Donc elles dialogueront toutes ensemble pendant à peu près une heure. Évidemment, il y aura du temps aussi pour que le public interagisse avec la table. Et ensuite, on conclura la soirée à partir de 22h par un concert de Solune. Et pour toutes celles et ceux qui ne pourraient pas venir en physique ce jour-là, l'événement est retransmis en direct live sur la chaîne Twitch de Médusine, puisqu'on inaugure ce soir-là, donc le 6 mars, mercredi, notre chaîne Twitch, avec l'ambition ensuite d'en faire un outil, un média, en tout cas dédié aux luttes féministes sur Bordeaux, et peut-être, si on y arrive, plus largement sur la Gironde.
C'est quoi Twitch pour nos auditeurs et auditrices les moins
Les plus âgés. Non. Twitch, c'est quoi ? C'est, bon, alors malheureusement, c'est une plateforme qui appartient à Amazon. Hein, voilà, on n'est pas libéré des GAFAM et autres grosses structures, mais c'est un lieu communautaire qui permet de diffuser en live des émissions. Voilà, donc ça demande très peu de moyens, ça demande une caméra et un micro, et ça permet donc de se connecter à plusieurs utilisateurs, utilisatrices, et c'est un média collaboratif et participatif, puisque celles et ceux qui regardent peuvent aussi interagir via un chat. Et c'est initialement plutôt un média dédié au gaming, aux jeux vidéo, et qui depuis quelques années est devenu un lieu d'expression politique, où on retrouve beaucoup de militants et militantes, non encartés, non affiliés, et qui simplement portent une parole politique. Et preuve du succès de cette plateforme, de plus en plus de médias internet surtout, hein, commencent à se mettre sur Twitch pour rencontrer leurs lecteurs, leurs lectrices. Et même la CGT a maintenant un Twitch et un moment de discussion hebdomadaire où différents militants et militantes interviennent.
Très bien, mais merci Julie, on reparlera sans doute de tout ça sur notre antenne, et ça serait intéressant de se plonger aussi dans cette galaxie Twitch qui est bien existante maintenant. On va citer quelques autres événements donc de cette semaine autour de la journée du 8 mars. Il y a le collectif du Pain et des Roses et le Point Levé qui organisent des événements toute la semaine à l'Université de Bordeaux. À la Victoire, une exposition intitulée « Histoire du mouvement des femmes, du droit de vote à la lutte contre la guerre, les femmes contre le capitalisme et le patriarcat », avec un zoom sur Palestine et Gaza. Myriam, je te laisse poursuivre.
Oui, un ciné-débat aura aussi lieu autour de Salt of the Earth, le sel de la terre, film tourné en 1952 par Herbert Biberman. Le film s'intéresse au pouvoir de la solidarité des femmes lors d'une grève des mineurs qui a éclaté dans l'État du Nouveau-Mexique aux États-Unis. Dans ce film, épouses et filles décident de s'engager dans le conflit social en tenant un piquet de grève. C'est jeudi 7 mars à 17h30 dans l'amphithéâtre Pitre.
L'asso féministe de Sciences Po Bordeaux Sexprimons-nous organise sa soirée annuelle, c'est au Vivre de l'Art. C'est aussi demain, mercredi, à partir de 18h30, avec des stands, des sketchs, un drag show, une tombola, concert et DJ set de deux artistes bordelais du collectif Souilletech.
Pour continuer à soutenir les initiatives féministes, vous pouvez aussi dès aujourd'hui aller faire un tour au festival WOW qui se tiendra au cœur du quartier Saint-Michel à Bordeaux. Jusqu'au 10 mars, le festival propose une sélection de projections, de concerts et de conférences. Et ce dimanche, le marché des Douves accueillera un village d'ateliers gratuit toute la journée, avec en prime une rencontre avec l'autrice de bande dessinée féministe Blanche Sabat.
À Bègles, le théâtre de Lulevin consacre le mois de mars à une programmation théâtrale composée uniquement d'artistes féminines. Plusieurs événements sont déjà passés. Le prochain, c'est une conférence gesticulée « Souvent femme jaillit » de la bordelaise Valérie Duchaillu et c'est vendredi 8 mars.
Au théâtre de l'Inox également, l'association culturelle Pourquoi Pas organise du 7 au 14 mars une semaine baptisée Exil des mondes passés, des territoires d'avenir, avec comme fil d'Ariane la femme de lettres et militante socialiste Flora Tristan. On ne vous en dit pas plus, mais vous en entendrez à nouveau parler dans Histoire de voir, Histoire au pluriel, à 13h sur notre antenne.
Au Garage Moderne, vernissage d'une expo photo Femme de Bacalan de Catherine Passerin. C'est vendredi 8 mars à partir de 18h30 et à 21h, représentation de Risque de verglas, spectacle de théâtre du collectif Paulette. Voilà, au Garage Moderne vendredi.
Et puis, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, plus de 60 avocats et avocates du barreau de Bordeaux se mobilisent et assureront des consultations juridiques gratuites sur différentes communes de la Gironde, mais aussi par téléphone. Pour plus d'informations, je vous invite à aller sur le site barreau-bordeaux.avocat.fr.
Voilà, beaucoup d'événements donc, qui ont lieu cette semaine. Je ne sais pas si vous en avez d'autres à annoncer ou pas, ou peut-être un mot de conclusion sur l'importance de se mobiliser et de participer à tout ça, Julie.
Alors, deux choses, dont un peu d'autopromo aussi pour le coup. Vous avez évoqué le Wow Festival. Le dimanche soir, il y a aussi Hortense Bellotte qui viendra jouer une de ses conférences, hein, ses conférences spectaculaires sur les oubliés de la Révolution française. Donc ce sera une histoire de la Révolution française où justement les afro-descendants, afro-descendantes et les femmes seront mises en lumière. Et personnellement, j'organise aussi en partenariat avec l'Office de tourisme trois nouvelles dates pour découvrir les illustres inconnus de Bordeaux. Donc, c'est des circuits féministes que j'ai mis en place pour faire voir le matrimoine bordelais et appréhender la ville sous un angle féministe. Ce sera le 8. Tout le monde ne se met pas donc en grève le jour, le 8 mars, le 9 et le 23 mars. Et plus il y aura de monde et plus on pourra aussi faire une douce pression sur l'Office de tourisme pour que ces visites soient reconduites annuellement.
Aïna, Laurence, d'autres choses à annoncer ? Aïna ?
Laurence. Alors si, moi j'ai à Bazas le 9 à 17h30 conversation collective autour du burn-out féminin par le collectif Collective. Et donc je ne sais pas où c'est, mais ça faudra aller voir. Je sais que le 9 aussi au matin, il y a une mobilisation à l'Aréole et je ne sais plus l'heure, mais je la cherche. Mais je pense que les copines vont revenir demain dans une autre émission de La Clé des Ondes. Mais très déjà noter qu'il y a une mobilisation, un rassemblement à l'Aréole samedi.
Merci beaucoup à vous trois, Aïna, étudiante à l'Université Bordeaux-Montaigne, Laurence de la FSU de Gironde et Julie Pérez de l'association Médusine. Merci beaucoup à vous.
Butterfly who flutters through the rain.
Voilà, c'était Solune qu'on écoutait à l'instant sur les ondes dans le plat de résistance à 12h54. On va passer maintenant aux clés de l'écho.
Le désarroi de parents découvrant que leur ado est de droite et qu'il adhère aux éditos de Dominique Seul.
Il n'y a pas d'alternative avec la réalité.
Il n'y a pas d'autre choix.
Il n'y a pas d'alternative.
Ça passe pas bien, ça, cette idée-là.
Cette semaine, pour les clés de l'écho, on est avec Michel Cabanne. Bonjour Michel.
Bonjour Baptiste.
Et tu reviens aujourd'hui sur la crise que traverse le monde agricole.
Eh bien oui, c'est pas terminé. La révolte actuelle des agriculteurs, c'est d'abord la conséquence des politiques qui ont promu un modèle productiviste et dont les effets sociaux et écologiques sont destructeurs. Alors, un petit retour sur les politiques agricoles. Depuis la Seconde Guerre mondiale, elles ont visé la modernisation de l'agriculture, la croissance de la productivité par la mécanisation, les intrants chimiques, le remembrement, la spécialisation, la concentration des exploitations. Alors, dans un premier temps, ces politiques étaient clairement protectionnistes. D'abord au plan national, après 1945, puis après 1962, au plan européen, avec la création de la PAC, la politique agricole commune. Celle-ci était alors basée sur le soutien des revenus par des interventions sur les prix des marchés, prix garantis, stocks régulateurs et même quotas dans le domaine du lait, par exemple. Ce dispositif était coûteux en termes de dépenses publiques et inégalitaire, mais il a permis à l'Europe agricole de devenir autosuffisante et exportatrice nette. Dans un second temps, après 1992, la PAC, elle a pris un tournant néolibéral, comme d'ailleurs d'autres politiques. D'une part, l'ouverture de l'agriculture aux marchés mondiaux par la réduction des protections douanières, puis l'élargissement de l'Union européenne, ont intensifié la concurrence entre les agriculteurs. D'autre part, les mécanismes d'intervention sur les marchés ont disparu. Le soutien des prix a été remplacé par des aides lié à la taille des exploitations en 2003, ce qui a maintenu leur caractère inégalitaire. 80% des aides sont captées par 20% des exploitations au niveau européen. Alors tout cela a entraîné une mutation productiviste de l'agriculture. La concurrence a intensifié la course au rendement, le productivisme, l'intensité capitalistique, l'agrandissement des exploitations. On a assisté à la fin du monde paysan, remplacé par l'agriculture d'entreprise. Celle-ci a réalisé d'importants gains de productivité. En France, la valeur créée par an et par travailleur a quasiment été multipliée par 3 en 30 ans. Le volume du travail agricole a chuté, passant de 2,4 millions à 700 000 emplois équivalents temps plein, de 1970 à 2020. Enfin, le nombre d'exploitations agricoles a été divisé par 4 depuis 1970 pour atteindre 390 000. Depuis le début des années 2000, enfin, ce modèle productiviste, en marge de ses dégâts environnementaux, rencontre des difficultés croissantes et en particulier un ralentissement de ses gains de productivité. Alors tout cela, eh bien, ça entraîne une crise sociale. Dans ces conditions, les agriculteurs sont victimes d'une situation qui ne permet pas à une partie d'entre eux de vivre de leur travail. Ils subissent plusieurs phénomènes. D'abord, un rapport de force défavorable dans les négociations de prix avec les grandes firmes. Ensuite, une concurrence internationale inégale liées à des disparités de normes sociales et environnementales, et, dans certaines périodes, ce qu'on appelle un effet de ciseau, pris entre une baisse des prix et une hausse des coûts. Et, de plus, pour faire bonne mesure, l'activité agricole apparaît comme la plus inégale des professions. En France, le revenu courant annuel avant impôt des agriculteurs est supérieur à 150 000 euros pour 10% les plus riches et inférieur à 15 000 euros pour les 10% les plus pauvres, ce qui les situe en dessous du SMIC horaire compte tenu de leur durée de travail. Les inégalités, enfin, sont fortes entre les filières, avec un rapport de 1 à 6 entre les revenus moyens des éleveurs bovins et caprins d'une part et des éleveurs porcins d'autre part. Les réponses du gouvernement français à la crise ne sont pas à la hauteur des problèmes sociaux agricoles et par ailleurs, les mesures pour une autre agriculture sont, au niveau européen, sont très insuffisantes au niveau des subventions à l'agriculture bio, par exemple, et des mesures agro-environnementales climatiques. Une politique agricole alternative devrait viser plusieurs objectifs, garantir un revenu décent pour les agriculteurs par la fixation de prix minimum rémunérateurs, une maîtrise des volumes par exploitant, une protection extérieure, notamment par l'activation des clauses de sauvegarde. Il faudrait bien sûr des plans d'urgence pour les filières en crise, agriculture bio, viticulture, fruits et légumes, et l'encadrement des marges des firmes contractantes. Enfin, les aides devraient être redéployées en faveur des petites exploitations et des formes d'agriculture non productiviste. Évidemment, on en est loin.
On en est loin, il y a du boulot, il y a du pain sur la planche. Merci beaucoup Michel pour tout ça. Il est 13h sur la Clé des Ondes, je termine juste en donnant les programmes de cette journée à 17h au Bord des Corps, comment l'État nous violente, enregistrement d'une table ronde du CLAP 33, 19h la voix off et les fantômes des années 30, 20h Yapou toutes les musiques et première émission d'une série consacrée aux femmes musiciennes et 21h émission spéciale de Radio Biche qui était ce week-end au festival Hip Hop Session à Nantes. Voilà, 13h, c'est Histoire de voir, Histoire au pluriel sur la Clé des Ondes.